Et je pense que c'est un message que beaucoup de prédicateurs aimeraient éviter. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois dans la parole de Dieu des passages qui sont difficiles à comprendre. Puis on aimerait tout simplement aller survoler ça et dire « voilà, je suis passé à travers ». Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire ? Vous savez, on a pris la décision d'enseigner l'Épître aux Éphésiens, de prêcher l'Épître aux Éphésiens, et on est au chapitre 4. Alors, ça fait pas mal de temps, n'est-ce pas, qu'on est dans l'Épître aux Éphésiens, surtout qu'il y a eu des intermittences, on va dire. Mais nous lisons au chapitre 4, et nous avons regardé au chapitre 4, versets 1 à 3, ce qui est la marche digne du croyant. On a eu un message là-dessus, encore une fois. On a regardé un autre message, ce qu'est la marche en toute humilité. Un autre message, ce qu'est la marche en toute douceur. Un autre message, ce qu'est la marche avec patience. Un autre message, ce qu'est la marche avec amour. Un autre message, sur ce qu'est la marche dans la paix et l'unité de l'esprit. Et au verset 4 à 6, on a eu trois messages sur ce qu'est l'unité du corps, un seul esprit. Un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, c'est merveilleux. Un autre message, rien que le verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et nous sommes rendus là, et ce matin, nous allons regarder du verset 8 à 10. Alors, à première lecture, vous allez peut-être commencer à dire, « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ce passage ? Est-ce qu'on peut vraiment donner un message sur ce passage ?» Mais comme toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, quelque part nous avons besoin de traverser ensemble ce passage un peu difficile que vous avez sous les yeux exposé. Et nous lisons donc à partir du verset 7 du chapitre 4. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et ce que je vais faire à l'instant, si je retrouve la manette, oui, j'aimerais qu'on puisse... Alors, normalement, il y a un autre... Voilà, merci Christina. Vous allez, si vous voulez bien, lire ce qui est ici sur affiché, et moi, je vais lire dans ma traduction. Ce que vous avez sous les yeux, enfin, sur le mur, c'est la traduction de la parole vivante, d'accord ? C'est une traduction paraphrasée, mais moi, je vais lire... Merci, Michael. Je vais lire la version de Louis II. C'est correct ? Alors, je recommence, verset 7, et vous lisez ici, n'est-ce pas, dans mon dos, là. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. » Donc, vous avez lu quelques mots différents, n'est-ce pas, de la version de la parole vivante. Alors, je vais essayer de garder une page ouverte ici sur ce commentaire biblique que j'aimerais vous lire dans un instant. Mais nous avons vu ensemble, donc, au verset 7, après avoir parlé, versets 4, 5 et 6, de l'unité de l'Église, au verset 7, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, veut nous enseigner sur la diversité dans l'Église. Et on a déjà vu l'importance de trouver un équilibre entre l'unité et la diversité. Oui, pour l'unité, mais pas être tout moulé de la même façon sans avoir la diversité. Oui, pour la diversité, mais sans être tellement différent que divisé. Le Seigneur veut donner un équilibre dans son Église. Oui, l'unité, oui, la diversité, mais ensemble. Et c'est merveilleux parce qu'on peut être unis tout en étant très différents les uns des autres, venant même de pays différents. C'est le cas ici de plusieurs d'entre nous dans l'Église, de milieux différents, d'instructions différentes, d'éducations différentes. Enfin, vous avez compris l'idée. Et surtout que Dieu nous donne par son esprit des dons différents. Mais ces dons que Dieu, le Saint-Esprit, nous a donnés ne devraient jamais enlever l'unité. Le même esprit qui nous unit en un seul corps et le même esprit qui donne la diversité par les dons qu'il donne à chacun de ses enfants. C'est de toute beauté, ça. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Et c'est merveilleux, cette vérité, je trouve. Alors, il nous est écrit à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et dans la traduction ici paraphrasée, c'est écrit « Cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. » On a déjà vu ensemble que Dieu donne son esprit, un don aussi particulier de service, et le même esprit qui donne le don de service particulier est le même esprit qui donne la capacité de l'utiliser et de le faire valoir au sein de l'Église. Et on a vu que c'est la mesure de Christ. Bien sûr, Christ est infini, mais il nous limite dans certains dons. Et c'est dans ces dons-là que Dieu veut que l'on fonctionne. Comme a dit quelqu'un, chacun a une place dans l'Église, une place pour chacun. Et c'est pour ça que le corps a besoin de tous les membres, pour que tous les membres fonctionnent en même temps, pour créer la diversité, mais aussi la force et la puissance et la croissance. Autrement dit, le corps ne peut pas se passer d'aucun membre. Et chaque membre est utile dans le corps. Et maintenant, Paul fait une analogie avec le psaume 68 que nous allons découvrir ensemble. Mais j'aimerais dire tout simplement que le verset 8, si vous voulez retenir ça dans la structure du passage ici, est en fait le commentaire du verset 7. Paul commence avec le verset 7 à ouvrir une vérité. Il l'approfondit avec un commentaire, le verset 8. Et comme le verset 8 nous fait réfléchir, alors il expose cette vérité déjà élargie encore plus profondément en commentant le verset 8 par les versets 9 et 10. Si vous voulez bien regarder et dans votre esprit, ou garder dans votre esprit cette approche de structure du texte. Je vous invite maintenant à tourner dans vos Bibles dans le psaume 68. Alors, il y aura quelques aspects dans ce message technique, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas échapper parfois à des textes un peu difficiles, mais vous allez voir qu'en fait, ayant l'explication du texte, cela va nous introduire ensuite dans le paragraphe suivant qui tombe, je dirais, excusez, je fais déjà cette parenthèse, merveilleusement bien dans la vie de notre Église. À partir du verset 11 et les versets suivants, jusqu'au verset 16, il y a le plan de Dieu concernant l'Église et je trouve merveilleux, c'est toujours merveilleux de regarder le plan de Dieu, mais je trouve que dans le temps de Dieu et de l'enseignement des Écritures dimanche matin, quand on va voir les versets 11 à 16, je crois que c'est vraiment le moment de Dieu pour notre Église. Je ne vous en dis pas plus, on va le découvrir les dimanches suivants ensemble, d'accord ? Alors, revenez chaque dimanche. Bon, psaume 68, j'en perds mon français, psaume 68, verset 19. Il est écrit ceci, « Tu es monté dans les hauteurs et tu as mené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme, les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Tu es monté dans les hauteurs, tu as mené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. » Ça, c'est le psaume 68, la première partie du verset 19, que l'apôtre Paul utilise pour essayer de nous amener à réfléchir sur une grande vérité de l'œuvre de Jésus-Christ concernant les dons qu'il a donnés à l'Église. Alors, quand on lit ce verset, au premier abord, psaume 68, verset 19, on peut se demander est-ce que c'est une prophétie que le psalmiste ici donne en fonction de ce que va être cette vérité qu'on voit à l'incarnation et la résurrection de Christ, ou est-ce que c'est une analogie que Paul prend pour comparer les deux textes? Je dirais peu importe dans un sens, mais l'idée c'est que Paul veut nous communiquer quelque chose d'important. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il avait des dons aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors écoutez, je ne pourrais pas mieux m'exprimer qu'en lisant, excusez, pendant un instant, ce que dit John MacArthur, un commentateur, pasteur, enseignant de la Bible. Je pense que je ne ferai pas mieux. Donc, si vous me permettez, j'aimerais introduire le message avec ce qu'il donne dans son commentaire. Le psaume 68 est un hymne de victoire composé par David pour célébrer la conquête de la ville forte des Jébusiens, qui est en fait Jérusalem, entre parenthèses, et l'ascension triomphante du mont Sion par Dieu, représenté par l'Arche de l'Alliance. Alors, David revient de sa victoire, il traverse Jérusalem et il monte sur le mont, la montagne de Sion. D'accord ? un roi qui revenait en Israël, et même c'était la coutume des païens, il revenait avec ses trophées, il revenait avec les richesses prises de ses ennemis et les ennemis faits comme prisonniers. Ou aussi, les personnes qui appartenaient au royaume du roi, qui ont été faites prisonnières par le roi ennemi et qui sont délivrées du roi ennemi, mais qui sont sous la tutelle du roi puisqu'il les a délivrées. Lorsqu'un roi avait remporté une telle victoire, il ramenait chez lui des dépouilles et des prisonniers ennemis qu'il montrait à son peuple lors d'un défilé. Un roi israélite aurait amené ces choses au travers de la ville sainte de Jérusalem et en gravissant le mont de Sion. Un autre élément important d'un défilé de la victoire étaient les soldats qui avaient été délivrés de l'ennemi et qui avaient, si on veut, été faits prisonniers par leur propre roi et libérés. Autrement dit, le roi a libéré ses propres sujets qui étaient devenus prisonniers et qui sont d'autant plus ses sujets puisqu'il les a libérés du fait qu'ils étaient prisonniers. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Bon, j'ai mis du temps un peu à comprendre, si je vous l'avoue. Donc, voulez-vous que je répète ? Oui ? Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, ils ont déjà compris. Non, on ne va pas diviser l'Église comme ça. Mais l'idée, c'est que le roi est allé combattre ses ennemis, lesquels ennemis avaient fait des prisonniers de ses sujets. Donc, le fait que le roi d'Israël a libéré ses sujets, qui étaient prisonniers, ces prisonniers sont devenus d'autant plus ses sujets qu'il les a libérés. Ça vous va comme ça ? Espérons. Les mots étant montés dans les hauteurs, alors voilà le point principal, décrivent un Christ triomphant qui remonte dans la gloire de la cité céleste après sa bataille sur la terre en rapportant les trophées de sa grande victoire. Christ est vainqueur, quoique apparemment vaincu à la croix, mais il a vaincu le diable, l'enfer, le péché et la mort à la croix parce qu'il est ressuscité. Et donc il va dans les hauteurs par son élévation, son ascension, et il amène avec lui des captifs libérés dans son royaume céleste, le royaume des cieux, qui est aussi sur terre. Alors, ça complique un petit peu, on va y revenir, d'accord ? On y va. Par sa crucifixion et sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu Satan, le péché et la mort. Et dans sa grande victoire, il a amené des captifs qui étaient prisonniers de l'ennemi, mais qui sont maintenant revenus à Dieu, à leur peuple. L'idée ici que veut souligner le commentateur, c'est qu'il y a déjà dans ce monde, des gens qui sont élus de Dieu, et qui vont être sauvés, parce que Christ, en étant ressuscité, a le pouvoir maintenant de les convaincre de péché, il a envoyé son esprit, et de les sauver, et qu'il les délivre de la captivité du diable, parce qu'il est ressuscité et tout puissant. Donc il transmet sa victoire de ressuscité sur la mort, l'enfer et le diable, à ceux qui sont élus dès la fondation du monde, son peuple mis à part, dès la fondation du monde. C'est ce que dit le commentateur ici. C'est une démonstration du fait qu'il y a des humains encore inconvertis qui appartiennent à Dieu, bien qu'ils soient par nature dans les griffes de Satan et y resteraient, si ce n'était que par sa mort et sa résurrection, Christ a fait ce qu'il fallait pour pouvoir les amener dans la captivité de son royaume à laquelle ils ont été destinés par l'élection souveraine avant la fondation du monde. Bon, je dois arrêter le commentaire, je pense. Hein ? D'accord ? Mais ici, l'idée, c'est que Jésus-Christ est monté dans les hauteurs. L'auteur, l'apôtre Paul nous parle du don de Christ pour chaque individu, mais là, il parle de don au pluriel. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs. Pourquoi il dit, c'est pourquoi ? Là, il est en train d'expliquer la raison par laquelle il a pu faire ses dons. Mais c'est tout simplement sa résurrection. Si vous avez un don spirituel, parce que vous avez reçu d'abord le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu vous l'a donné, mais il veut l'utiliser, mais sachez que ça vient uniquement de Christ et de sa résurrection. Ce n'est pas un talent naturel dont il est question ici. C'est un don que Dieu a donné, que Jésus-Christ a communiqué par le Saint-Esprit parce qu'il est ressuscité. C'est donc un don spirituel. Alors on y va. On va regarder un petit peu ensemble, si vous me permettez, les versets les uns après les autres. Étant monté dans les hauteurs, ça nous parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a subi ? Il a subi la croix. Aux yeux du monde, qu'était-il ? Il était vaincu. Hein ? injustement accusé. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Prouve-nous que tu es le Fils de Dieu. Les hommes l'ont rejeté, injurié, blasphémé, se sont moqués de lui et l'ont tenté, à la limite, de descendre de la croix. Est-ce que Jésus-Christ n'avait pas le pouvoir, dans n'importe quel moment de la crucifixion, même avant sa crucifixion, même devant Pilate, de montrer toute sa puissance et de juger les hommes qui le jugeaient injustement et de les juger éternellement et damnés même? Mais il était sur la croix par amour. Par amour, il a subi cette mort parce qu'il pensait à chacun de nous, parce qu'il nous aime. Et sur cette croix crucifiée, il semblait vaincu, le Fils de Dieu. Et pourtant, c'était le plan de Dieu pour la grande victoire. Parce que dans la mort, il a englouti, par sa mort, il a englouti le péché, il a englouti l'enfer, il a subi l'enfer à notre place. Jésus-Christ a dit à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a subi l'enfer à notre place. Mais s'il n'avait pas été ressuscité, que pensez-vous qu'aurait été la réaction des apôtres? Il n'y aurait plus eu qu'une vie. Ils auraient eu un bon temps miraculeux et puissamment appuyé par, Dieu, par Jésus-Christ lors des miracles, etc. Ils auraient été témoins de choses extraordinaires. Ah, oh, mais il n'a fait que passer sur la terre 3 ans. Non, Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu incarné en Christ, il a été ressuscité par la puissance de Dieu le Père, qui a accepté que sa justice soit accomplie dans l'homme Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que nous soyons sauvés. Mais apparemment, Jésus-Christ était vaincu. Donc sa résurrection est la proclamation de sa victoire. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? La Bible dit qu'il a vaincu Satan, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu l'enfer, qu'il a pris notre place à la croix. On méritait l'enfer, on était en route pour l'enfer. Et si on meurt sans Christ, on passe l'éternité sans Christ et sans Dieu. C'est ça l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Mais Christ l'a payé à la croix. Et parce qu'il l'a payé, alors il est ressuscité et Dieu l'a glorifié. Il est assis à la droite de Dieu le Père et c'est une grande victoire. C'est comme ici, c'est exprimé en ces termes, dans l'analogie avec le psaume 68. Il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Le roi, ramenant de sa victoire des trophées, des ennemis prisonniers, ayant libéré peut-être ses propres sujets prisonniers, alors il est célébré, il est comme victorieux, et avec tous ses trophées. Et c'est exactement l'image ici que veut nous donner l'apôtre Paul concernant cette idée des dons. Parce que le roi vainqueur avait l'habitude de distribuer des trophées, de faire des dons, peut-être les richesses qu'il avait prises à ses ennemis, les distribuer au peuple. Et voilà, Jésus-Christ, c'est l'image que la Bible nous donne ici, c'est le grand vainqueur, c'est le roi des rois, c'est celui qui a vaincu, et parce qu'il ramène toutes sortes de trophées, il les distribue à son peuple, qui est aujourd'hui son Église, en faisant des dons. Maintenant, quel don nous a-t-il donné? Premièrement, il nous a donné le Saint-Esprit. Deuxièmement, il nous a donné un don au moins spirituel que Dieu veut voir s'exprimer dans l'Église. Mais il y a aussi plus que cela. Et je suis content qu'on prenne le temps de voir ce texte. Parce que vous allez voir qu'il est si important pour la suite à partir du verset 11. Non seulement il a fait le don du Saint-Esprit, des dons spirituels à son Église, mais il a fait des dons d'hommes. Le roi pouvait donner des prisonniers qu'il avait fait à son peuple pour servir. Et Jésus-Christ, lors de son triomphe, a trouvé bon de donner son Saint-Esprit qu'il avait promis. Vous vous souvenez, en Jean, chapitre 14, chapitre 16, vous recevrez le Saint-Esprit, mais aussi des dons du Saint-Esprit, mais aussi des dons d'hommes. Et au verset 11, on ne verra pas ce texte, on aurait pu le lier, ça aurait bien été le lier avec le verset 9 et 10. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Rien n'est laissé au hasard pour le Seigneur, pour bâtir son Église. Rien n'est laissé au hasard. Il donne le Saint-Esprit, il donne des dons de l'Esprit pour que le corps agisse selon la puissance de chaque main distribuée à chacun pour la gloire de Dieu et des dons d'hommes. Il a amené des captifs. Alors, on a déjà regardé un petit peu ensemble qu'en fait, il a libéré des prisonniers et on peut dire que ça s'applique à nous, les enfants de Dieu. Nous étions captifs de l'ennemi. Nous étions esclaves du péché, esclaves de Satan. Et Dieu nous a libérés. Il y a des gens sur cette terre, et beaucoup plus que ce qu'on pense, qui essayent de se libérer, qui essayent de trouver la libération de la puissance du péché dans leur vie. Il y a différentes religions dans le monde qui essaient d'extraire le mal du corps de l'homme, si le corps est mauvais. On ne pense pas que le corps est mauvais, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est l'homme, le principe du péché qui est mauvais. Il y a des gens qui vont se faire souffrir pour essayer d'extraire le mal, comme pour expier le péché, comme pour couvrir leurs fautes. Et toute leur vie, ils essayent, avec leur religion plus ou moins terrible, n'est-ce pas, d'essayer d'extraire le mal de leur vie. Mais ce n'est pas la bonne façon. Ils retombent dans les mêmes mauvaises habitudes, ils sont malheureux, et nous étions de leur nombre, dit la Bible. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ, c'est dans la mesure où on a accepté le Christ qu'on a été libérés de notre esclavage. Et les hommes et les femmes, comme nous étions esclaves, le jour où on a accepté le Christ, on a été libérés de cette puissance. Et maintenant, on vit dans le royaume de Dieu sur terre, en attendant de vivre dans le royaume de Dieu dans le ciel, libérés de toute contrainte, c'est vrai, de notre enveloppe corporelle qui nous limite dans bien des choses. Et nos péchés, un jour on ne péchera plus, on sera dans le ciel, mais déjà on a une puissance en nous qui est plus forte que la puissance de la mort spirituelle, parce que nous avons la puissance de la vie, nous avons l'Esprit Saint en nous. Mais nous étions captifs, nous étions esclaves, et nous pourrions regarder aujourd'hui peut-être avec plus d'attention les gens autour de nous qui peut-être en apparence semblent heureux de vivre, mais qui sont peut-être esclaves de l'alcool, du sexe, de la drogue, peut-être du diable, de démons, de mauvaises habitudes, d'idoles cachées dans le cœur ou carrément exposées. L'esclavage est rapide chez l'homme, dans le cœur, dans l'esprit. Mais Christ est venu nous libérer. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et quel que soit l'être humain sur terre, quel que soit qu'il ait fait, s'il accepte le Christ, Dieu le libère, Dieu lui pardonne, Dieu le sauve, Dieu le libère. C'est merveilleux cela. Nous étions prisonniers et Christ est venu nous chercher parce qu'il s'est incarné. Et par la puissance de sa résurrection, il parle au cœur des hommes. Il agit sur la vie des hommes et il sauve encore aujourd'hui. Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous avons la foi de croire que Dieu veut nous utiliser pour gagner des âmes à son Fils bien-aimé en proclamant l'Évangile? C'est une question de vie ou de mort et Dieu veut nous utiliser afin que nous puissions proclamer la libération aux captifs. Alors il est monté, verset 9, il est monté, sinon qu'il était descendu, ça a fait évidemment à son ascension, et il est descendu, ça réfère à son incarnation. Quelqu'un a dit ceci: la profondeur de la descente de Christ est jusqu'aux régions inférieures de la terre, la grandeur de sa gloire a été la mesure de la profondeur de son incarnation. On ne peut peut-être pas à l'instant développer tout cet aspect, mais maintenant nous allons trébucher sur une expression dans le texte ici, qui est au moins dans la traduction du second, de Louis II. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu, dans les régions inférieures de la terre. Et on va examiner un petit peu dans les Écritures ce que ça veut dire. Alors, si vous prenez note, c'est bien, sinon je vous le mentionne, on n'aura pas le temps de lire les quatre passages que vous lire, mais on va prendre la même expression, les régions inférieures de la terre, qui se trouve dans l'Ancien Testament, l'équivalence, pour savoir ce que ça signifie. Parce que j'aimerais, et c'est là l'obstacle à traverser ensemble ce matin, vous dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles, et donc on va essayer de voir quelle est la bonne, éventuellement. Et je vais faire un choix, moi j'ai fait un choix, je vais vous le dire dans un instant. Premièrement, dans le psaume 63, verset 10, si vous avez la Bible, vous pouvez tourner, et je vous le lis. Nous allons lire quatre passages qui se réfèrent à cette expression « les régions inférieures de la terre ». Dans le psaume 63, verset 10, il est écrit « Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre ». Tout simplement, ici, ça a à faire avec la mort. Les profondeurs de la terre, ici, dans l'Ancien Testament, dans cette expression équivalente, en analogie avec ce qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, c'est la mort. La profondeur de la terre, une des profondeurs de la terre, c'est la mort. C'est donc le corps qui perd la vie. Matthieu 12, 40, Matthieu 12, 40, dit ceci, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Encore une question, est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson et ensuite il est ressuscité, ou Dieu l'a gardé 3 jours et 3 nuits sans mourir? Lisez Jonas, livre de Jonas, et vous me donnerez la réponse, d'accord? Oui? Ici, il est question d'être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça reflète aussi, ça parle du ventre de poisson dans lequel Jonas était prisonnier, cœur de la terre. D'accord? Ésaïe 44, si vous lisez maintenant en Ésaïe 44, Ésaïe 44, verset 23. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit, profondeur de la terre retentissez d'allégresse, montagnes éclitées en cris de joie, vous aussi forêts avec tous vos arbres. Voilà, ça il s'agit de la création ici, donc profondeur de la terre, ça parle de la terre, de la création, les montagnes, les forêts, les arbres, toute la création, enfin la terre. Et puis un dernier passage, psaume 139, psaume 139, et verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Alors, quand on parle d'un bébé qui est tissé dans les profondeurs de la terre, ici, ça a à faire avec le ventre d'une maman, d'une femme. Donc, toutes ces expressions, pour donner une conclusion à cela, on peut dire que la même expression, les profondeurs de la terre, a à faire avec la vie, avec la mort, tissée dans le ventre, par exemple, de Marie, pour Jésus, ayant vécu sur la terre, pour l'appliquer à Jésus-Christ, référence avec Jésus-Christ et sa mort en comparaison avec Jonas, et puis confirmée en Ésaïe 44, verset 23. Donc en fait, tout cela veut dire ceci. Maintenant, pour ceux qui aiment les choses compliquées, on continue? On doit traverser l'obstacle. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou comme un cheval têtu, vous allez refuser de franchir l'obstacle? On y va? On y va. 1 Pierre 3. Et je vous promets, j'espère en tout cas que ce sera un petit peu plus clair. Et si vous restez encore confus, eh ben, écoutez, le Seigneur vous fait grâce pour comprendre d'autres passages, hein, pour chacun de nous. Ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a ceux qui interprètent maintenant le verset suivant, en 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il est écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Rendu vivant quant à l'esprit, ça veut dire ceci. C'est que les gens pensent, et à juste titre, que Jésus-Christ mort physiquement, son esprit, il est Dieu, son esprit n'est jamais mort. Et il y a ceux qui pensent que dans le moment entre sa mort et sa résurrection, étant sans corps, Jésus-Christ, en esprit, est allé en enfer. D'où vient cette idée? Premièrement, les régions inférieures de la terre, dans la traduction de la Septante, en latin, c'est traduit par un mot latin qui a donné le mot enfer. Donc, il y a une première interprétation qui dit que quand Jésus-Christ est allé dans les régions inférieures de la terre, il est allé en enfer. Est-ce que c'est juste de penser comme ça? On va essayer de voir jusqu'à quel point on peut penser comme ça et prendre une décision ensemble, éventuellement. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Voilà, il y a ceux qui pensent, et même les pères de l'Église, certains pensaient comme cela. Au verset 19, il est écrit, donc Jésus, entre sa mort et sa résurrection, a passé 3 jours dans les régions inférieures de la terre, en esprit toujours vivant. Il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est pour certains interprètes de ce verset, verset 19. Il est allé proclamer, ce n'est pas qu'il est allé prêcher l'évangile, car une fois qu'on est mort, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas sauvé auparavant. Il n'y a aucune chance, le purgatoire n'existe pas, c'est un grand mensonge d'une grande religion, on va dire, c'est un mensonge. On ne se rachète pas après la mort. On ne peine pas, on ne purge pas ses fautes dans un lieu de souffrance avant d'entrer au ciel. On est sauvé sur la terre par la pure grâce de Jésus-Christ, comme un don gratuit qui est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez, c'est un verbe présent, c'est une assurance. Alors ici, le mot prêcher n'est pas le mot évangéliser, qui existe aussi dans le grec, c'est l'idée de proclamer une victoire. Alors Jésus-Christ, pour certains, est allé dans la partie de l'Hadès, l'enfer, où il y a les hommes déchus qui n'ont pas accepté la foi et le salut en Dieu, puisqu'on ne peut pas parler encore du salut en Jésus-Christ, et les démons déchus, en Genèse chapitre 6, il est question des démons, semble-t-il, encore là, c'est des points d'interrogation, qui se seraient incarnés pour avoir des relations sexuelles avec des femmes, d'où seraient nés les géants. En tout cas, en Jude, il est écrit de ces démons, de ces anges qui ont perdu leur gloire et qui sont déchus et qui sont déjà dans l'abîme. Il y a une partie des démons qui sont déjà prisonniers dans l'abîme. Donc Christ est allé proclamer sa victoire, non pas par sarcasme, mais proclamer sa victoire, que ces démons n'ont pas pu le retenir dans les liens de la mort et qu'il va ressusciter, qu'il est vivant. Étant Dieu, il est toujours vivant. Vous me suivez ? Mais il y a plus loin, il y a ceux qui pensent que, en Luc chapitre 16, je vous avais dit que ce ne serait pas toujours facile de franchir l'obstacle ce matin. Hein ? On s'élance comme un cavalier avec sa monture et on commence à passer en dessus de la barre, même si la barre est assez élevée ce matin. En Luc chapitre 16, vous connaissez certainement l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche et Lazare, un homme riche qui ne se souciait pas des pauvres, qui ne se souciait pas surtout de Dieu, on va dire, mais, et qui reflétait son manque de crainte de Dieu par son manque d'amour envers les pauvres, et le manque de soins qu'il exerçait envers les pauvres, et ce pauvre qui avait la foi. Alors Lazare se trouve dans un endroit, avec Abraham, dans une félicité qu'on peut appeler le paradis en quelque sorte, et puis en même temps, il y a ce riche qui souffre terriblement et qui demande quelque part qu'on puisse aller dire à ses vivants et sa parenté ce qui se passe dans le lieu où il est. C'est si terrible, n'est-ce pas, d'avoir pas eu la foi, et qui plaide pour que des gens aillent plaider, n'est-ce pas, auprès des siens pour qu'ils n'aboutissent pas au même endroit que lui, parce que c'est un lieu de tourment. Alors, on va faire un peu de théologie céleste, si vous me permettez. Ici, les questions du séjour des morts, le Sheol en hébreu, dans l'Ancien Testament, qui est connu comme ayant 2 parties. Le sein d'Abraham, dans lequel les gens qui mouraient, écoutez-moi bien, avant la Nouvelle Alliance, avant la mort et la résurrection de Christ, qui mouraient et qui étaient assurés d'entrer dans la présence de Dieu, en attendant d'avoir leur corps glorifié, en attendant d'entrer dans la pleine présence de Dieu, le ciel éternel. C'était un paradis provisoire, si on peut dire que c'est provisoire. En attendant, le paradis, ce n'est pas paradis provisoire parce qu'il n'est pas éternel, parce qu'en attendant le paradis éternel, il serait faux de penser comme ça, parce qu'ils sont déjà entrés dans l'éternité. Mais l'idée, c'est qu'ils sont comme dans un paradis, en attendant que Christ soit glorifié pour qu'ils entrent pleinement dans la présence glorieuse de Dieu le Père. Et la partie du Sheol, qui est un lieu de tourment, qui est la prison préventive, en attendant d'être jugé, en Apocalypse, il est question à la fin des temps du jugement des morts, et il est dit ceci, je vous le lis rapidement, Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc la partie du tourment, le séjour des morts, dans lesquels les gens vivent, malheureusement, parce que pas sauvés, un lieu de souffrance, un jour, Dieu les juge, ils sont ressuscités dans un corps qui va leur permettre de vivre éternellement sans Dieu, dans l'éternité sans Dieu, qui est l'enfer. Donc, dans le Shéol hébreu, il y a deux parties. Il y a le sein d'Abraham, qui est un lieu de paradis, et un lieu de prison préventive en attendant d'être jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Alors les pères de l'Église, et je termine avec ça enfin, les pères de l'Église pensaient que quand Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre, non seulement il a proclamé sa victoire sur les démons qui existent en Hadès, qui sont déjà dans l'abîme, n'est-ce pas, mais aussi qu'il a pris la partie de ces gens qui faisaient partie du sein d'Abraham, donc Abraham, tous les saints de l'Ancien Testament, et qu'il les a amenés avec lui dans le paradis. Alors ça semble très beau tout cela, c'est possible, mais c'est un peu difficile à démontrer, mais il fallait traverser ces différentes interprétations possibles pour comprendre pourquoi les gens ont regardé Éphésiens chapitre 4, de façon différente. Maintenant, on va parler d'interprétation. Mais ce que je vous ai dit au sujet du Shéol est une vérité. Il y a vraiment dans le Shéol une partie de tourment et une partie de paradis. C'est une vérité, cela. Maintenant, comment on met tout ça ensemble par rapport à ce verset de régions inférieures à la terre, c'est un peu difficile. D'où l'obstacle à traverser ensemble. Vous avez bien voulu traverser avec moi ce matin. Mais le mot ici, région inférieure de la terre, qui a été traduit encore une fois par la Septante, par le mot latin qui a donné le mot, enfin, infernus qui a donné le mot enfer, n'est pas toujours vu comme ça par les traducteurs de la Bible. C'est pour ça que j'ai pris, par exemple, le soin de prendre la parole vivante, si on veut bien regarder l'autre traduction. Et voyez-vous, au verset 9, il est écrit, cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel jusque sur notre terre. Donc il y a une interprétation plus classique, tout simplement, qui dit, comme on a vu les quatre applications possibles dans l'Ancien Testament des régions inférieures de la terre, profondeur de la terre, qui a à faire avec le ventre de la mer, la terre, la création, l'endroit où était Jonas, et puis la mort, que les régions inférieures de la terre, ça montre la profondeur qu'a dû traverser le Christ pour descendre du ciel jusqu'à la terre. Voilà. Et je crois cela moi aussi. Je crois que l'interprétation est plus simple. Je suis arrivé à cette conclusion. Peut-être que je vais décevoir certaines personnes qui ont interprété différemment. Mais je crois qu'on peut arriver à la conclusion que les profondeurs, les régions inférieures de la terre, c'est tout simplement la terre. Sachant que Jésus-Christ a dit ceci au brigand sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il s'agit du sein d'Abraham? Est-ce qu'il s'agit déjà de l'éternité après que Christ soit ressuscité? Voyez-vous, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous allons terminer avec quelque chose de merveilleux. C'est qu'il est écrit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Autant Jésus-Christ est descendu dans sa profondeur, d'incarnation jusqu'à la terre, autant il a été élevé par son ascension dans les cieux, au-dessus des cieux. On dit qu'il y a les cieux, les nuages, on dit qu'il y a le firmament avec les étoiles, et le troisième ciel, c'est la gloire de Dieu, c'est les cieux, c'est là où Dieu règne, et c'est là où Jésus-Christ est venu présenter sa victoire à Dieu le Père, par la puissance de sa résurrection. Il est écrit ici, afin de remplir toutes choses. C'est merveilleux cela, et on va terminer avec quelque chose de plus clair peut-être, c'est que Christ étant ressuscité, nous avons l'assurance, mes chers amis, qu'il a vaincu la mort. Combien sont ceux qui sont esclaves de la crainte de mourir? Quand on est un vrai croyant, on n'a plus peur de mourir parce qu'on sait où on va passer l'éternité. Peut-être la crainte de souffrir, la crainte de devoir souffrir avant de mourir, mais on sait que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, on se réjouit et on marche humblement, certes, parce que c'est un don gratuit qu'on a reçu par la grâce. On dit merci Seigneur, on ne craint plus la mort. Et la puissance de la mort, le diable, parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix du calvaire. J'aimerais, pour revenir à l'image de ce qu'on a parlé, du roi qui triomphe et qui, dans son cortège, montre ses trophées et puis en donne quelques-uns, je ne voudrais pas oublier juste de lire deux versets, si vous me permettez, en Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que le croyant, celui qui est en Christ, ne doit plus craindre les démons. Jésus-Christ a vaincu les démons. Et lorsque le croyant peut être assailli, tenté par un démon ou un autre, la puissance de Christ est plus forte que la puissance du démon. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a dépouillé la puissance de ces démons pour nous les enfants de Dieu et la puissance du diable. Certes, le diable n'est pas au chômage, hein, mais Jésus-Christ l'a vaincu jusqu'à ce qu'un jour il soit jeté aussi dans l'abîme. Amen. Amen. Un jour, le diable n'aura plus aucune puissance sur aucune forme de créature et de création qui appartienne à Dieu. En attendant, on le subit parfois. Mais on a le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, parce que Christ a dépouillé les puissances des ténèbres et a triomphé d'elles par la croix. Alors, celui qui est descendu, qui s'est incarné, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Laissez-moi vous poser une question. Ce n'est pas facile ce texte à comprendre, mais il y a quand même une profondeur à aller chercher. Est-ce qu'on vit vraiment dans la plénitude ? Parce que le même qui a vaincu le mal, c'est le même maintenant qui remplit les cieux de sa gloire et la terre de sa gloire. Et une façon par laquelle il le démontre, c'est quand il remplit le croyant de sa plénitude et quand il remplit l'Église de sa plénitude. Est-ce que notre Église vit de sa plénitude ? Eh bien, je ne suis pas sûr. Humblement. Est-ce que ma vie est remplie de la plénitude de Christ ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous-même, vous êtes rempli de la plénitude de Christ ? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, le Christ nous dit qu'il veut remplir toutes choses. C'est dans sa volonté. Il y a de l'espoir pour nous. Il y a encore de la place pour le Christ, vainqueur. Et on peut se lever ce matin et glorifier son nom et dire, Seigneur, oui, à toi toute la gloire au siècle des siècles. Tu m'as donné ton esprit parce que tu es vainqueur. Tu m'as donné des dons spirituels afin que ta vie coule en moi pour le bien de l'Église. Tu m'as donné ta présence. Je suis soumis à un maître qui est souverain, à la toute puissance. Et tu es la source de toute bénédiction. Et donc je peux vivre dans l'esprit d'une plénitude parce que tu remplis toutes choses. Là même où nous avons été détruits, le Christ nous a reconstruits. Là même où nous avons senti le vide, le Seigneur nous a remplis. Là même où nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a donné la lumière. Là même endroit où nous étions esclaves du péché, Dieu nous a libérés. Et la Bible dit, le psalmiste dit, par ta lumière, je vois ta lumière. Il y a bien sûr de la lumière à faire encore dans nos vies, à chacun. Mais c'est possible, parce que Christ a promis de nous donner sa plénitude. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et Christ est le chef de son corps à qui il donne toute sa plénitude. Réfléchissons un instant, mes bien-aimés, à cette grande vérité. Le Christ a donné, verset 7, un don à chacun selon sa mesure. Il a fait des dons spirituels. Le Saint-Esprit nous a été donné, des dons spirituels, des dons d'homme. Et le Christ, parce qu'il s'est incarné profondément sur la terre, par sa mort, il est ressuscité et glorieux et a triomphé en venant dans les cieux présenter à Dieu le Père son sang qu'il a donné sa vie afin que nous nous soyons rachetés Il nous a transmis sa victoire. Il nous a transmis sa plénitude que Dieu agrée à 100%. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous ont unis, versets 4 à 6, et maintenant il nous remplit. L'amour de Dieu le Père, la puissance de Jésus-Christ, la vie de l'Esprit. Que pouvons-nous demander de plus? Si ce n'est Seigneur, aie pitié, remplis ma vie de ta présence. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, afin de nous pardonner et de nous purifier de tout péché. Pouvons-nous démarrer quelque part, là où peut-être nous avons failli, confessant notre péché, pour demander à Christ de nous remplir? Prions. La repentance, Seigneur, précède le triomphe et la victoire. Et nous aimerions ce matin nous humilier. Parce que oui, Seigneur, tu nous accordes ton pardon, tu nous accordes ton don, ta vie à la croix. Et nous t'en remercions, Seigneur. Gloire à ton nom.